Une des grandes craintes que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, c'est que l'Église, notre Église en particulier, parte dans une mauvaise direction. C'est qu'elle dévie, c'est qu'elle soit la proie d'hérésie, de choses contraires à la volonté de Dieu, c'est qu'elle devienne spirituellement morte, et c'est qu'elle se montre indigne de sa vocation. Eh bien, le texte que nous allons lire dans quelques instants s'adresse à une église, c'est-à-dire à une communauté de chrétiens comme nous, et il nous donne les éléments pour que nous nous conduisions d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à prendre une Bible si vous n'en avez pas dans le livre des Éphésiens, parce qu'il n'y aura aucune projection au chapitre 4. Et toujours pareil, si vous avez donc les Bibles qui sont en prêt à l'Église, celle-ci, c'est à la page 768. Éphésiens 4, et je lirai les 16 premiers versets. C'est une lettre de l'apôtre Paul. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, pardon, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emporté par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le but d'une église, c'est-à-dire sa vocation, son appel, c'est de faire grandir ses membres dans la maturité spirituelle, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun de ses membres ressemble de plus en plus à Jésus, que chacun finisse par avoir en lui les pensées de Jésus, les sentiments de Jésus, et qu'il se mette à faire ce que Jésus aurait fait à sa place. Et un des moyens d'y parvenir est de dire la vérité dans l'amour. Et à partir du texte que nous avons lu, ces deux points ont déjà été abordés et ont fait l'objet de deux prédications. Et si vous regardez sur vos feuilles tout en bas, il y a écrit justement les dates sur lesquelles vous pouvez retrouver ces prédications afin de pouvoir les réécouter sur le blog. Donc nous ne parlerons pas de ces points, mais ce qui va nous intéresser en particulier ce matin, c'est de savoir ce que le Seigneur a lui-même prévu afin que l'Église, son Église, soit digne de son appel et apte à faire grandir l'ensemble de ses membres. Et ce texte met en avant les trois conditions que toute Église doit remplir pour répondre à sa vocation. Premièrement, l'unicité de certaines convictions et pratiques. Deuxièmement, la diversité des dons et des ministères. Et troisièmement, l'unité qui doit régner dans l'Église. Tout d'abord, l'unicité. Alors, l'unicité, c'est le caractère de ce qui est unique. Et Paul, afin de bien mettre en relief l'importance de veiller à l'unicité des convictions et des pratiques, va volontairement répéter à 7 reprises qu'il y a un seul. Des fois, c'est intéressant de voir que le style utilisé par l'auteur a pour but de mettre quelque chose en relief. Et là, Paul va volontairement faire plusieurs répétitions. Versets 4 à 6, « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Tout d'abord, il y a un seul corps. Il n'y a pas plusieurs corps de Christ, c'est-à-dire plusieurs peuples de Dieu, mais un seul. Ça veut dire que soit on en fait pleinement partie, soit pas du tout. Mais si jamais on fait partie de ce corps, eh bien alors nous devenons solidaires et interdépendants des autres qui en font partie tout comme nous. Et lorsqu'un membre souffre, par exemple, c'est l'ensemble de l'Église qui souffre. Lorsqu'un membre ne trouve pas sa place au sein de l'Église et ne peut pas exercer son rôle, c'est l'ensemble du corps qui en pâtit. On peut dire qu'on ne peut pas se la jouer perso dans une Église parce que nous faisons intégralement partie d'une communauté qui a besoin de nous et dont nous avons également besoin pour grandir. Il y a un seul esprit. Et c'est justement la réception du Saint-Esprit dans nos vies qui nous incorpore au corps de Christ. Et si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il ne peut donc pas être considéré comme membre de l'Église, mais seulement comme un visiteur au milieu de l'Église. Voilà, quelqu'un que l'on accueille parmi nous. Il est capital que tout membre de l'Église soit animé par le même esprit que les autres, parce que c'est ainsi que Dieu va pouvoir conduire l'ensemble de son Église et que Dieu va pouvoir amener l'Église là où il veut. Il y a également une seule espérance. L'espérance de tous, l'espérance commune, c'est le pardon de nos péchés et puis c'est l'obtention de l'héritage de la vie éternelle. Ça veut dire que personne ne pourrait avoir sur cette question-là, une autre espérance, comme croire en la réincarnation, ou bien imaginer que par ses propres œuvres, elle va pouvoir mériter le pardon de Dieu. Il y a un seul Seigneur. Tous doivent vouloir obéir et ressembler à Jésus. Il est le seul maître de leur vie. Une seule foi. Croire en Dieu ne suffit pas pour être membre d'une Église. Il faut aussi croire en Jésus et croire qu'il est non seulement le seul chemin qui nous conduit au Père, mais aussi croire que son sacrifice est pleinement suffisant pour nous. La foi en Jésus ne supporte aucune autre concurrence dans l'Église. Il y a un seul baptême. Alors, de nos jours, le baptême désigne malheureusement plusieurs pratiques différentes, mais la parole de Dieu nous parle d'un seul baptême. Le baptême biblique, c'est l'acte par lequel une personne manifeste librement, personne ne la force, et en présence d'autres chrétiens, sa foi personnelle en Jésus, et en particulier, elle s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est par cet acte que le baptisé s'engage et prend position spirituellement, mais c'est également par ce même acte que le baptiseur et les témoins du baptême manifestent par leur présence qu'ils reconnaissent comme frère ou sœur la personne baptisée. Seule cette pratique correspond à l'enseignement biblique et tout membre de l'Église doit être baptisé. Alors je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent autrement. Hein. Si jamais c'est votre cas, moi je vous invite à venir me trouver afin que nous puissions ensemble nous placer devant Dieu et lui demander de nous éclairer sur ce qu'est le baptême. Il y a un seul Dieu et Père. Nous croyons en Jésus, mais nous croyons également en un seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui se fait connaître à nous comme notre Père Céleste. Alors, cela peut sembler terriblement étroit, une étroitesse d'esprit, hein, peut-être, que pour être membre du corps de Christ, il faille adhérer à tous ces un seul. Mais si on considère d'où vient notre foi, nous comprenons qu'en fait, cela coule de source. Parce que notre foi nous vient de Dieu, qui par son esprit nous fait adhérer à la vérité qu'enseigne sa parole. Il est donc normal que si nous sommes en communion avec Dieu et que nous sommes soumis à sa parole, nous soyons tous d'accord sur ces 7 points. Pour qu'une église soit digne de sa vocation, il faut qu'il y ait unicité des croyances et des pratiques. Dieu veut l'unicité pour son église. Mais en même temps, et ça des fois on a du mal à le comprendre, en même temps, Dieu veut qu'il règne une grande diversité dans son église. Diversité de ceux qui composent l'église, mais aussi diversité des dons et des ministères. Verset 11, c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors dans ce texte, c'est la diversité des ministères qui est mise en avant. Dans d'autres textes, c'est la grande diversité des dons au sein de l'Église qui est soulignée, en 1 Corinthiens 12 par exemple et Romains 12. Au sein de l'Église, Dieu n'a pas seulement permis, mais plus encore, Dieu a voulu qu'il règne une grande diversité. C'est lui-même qui, par son esprit, crée la diversité grâce à laquelle les membres pourront mutuellement s'aider à grandir à la ressemblance de Jésus. La diversité de ses membres, de ses dons et de ses ministères, de ses services, c'est ça la richesse de l'Église. Et pour qu'une Église se montre digne de sa vocation, il doit s'y exercer toute la diversité que Dieu lui-même y a mise. Alors, on pourrait penser qu'une grande diversité va provoquer la division, hein, l'éclatement de l'Église, parce que chacun va se mettre à faire ce qu'il veut de son côté. Et alors, il ne restera rien de l'unité de l'Église. Humainement, c'est ce qui se passerait dans un groupe. Oui, mais si jamais ceux qui composent ce groupe sont reliés à Dieu, et ils le sont, puisqu'ils adhèrent à l'unité de la foi, alors il n'en sera rien. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il est, Père, Fils et Saint-Esprit, crée une diversité unie. Le Fils crée l'unité dans la diversité. Verset 16, c'est de lui, Jésus, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. C'est une diversité, oui, mais elle est coordonnée par celui qui en est le chef, celui qui est le chef de son corps. Le Saint-Esprit crée l'unité dans la diversité. Le verset 3 nous dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. L'unité est créée au départ par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc et qui nous fait adhérer à tous les un seul que nous avons vus. C'est l'Esprit Saint qui, dès le départ, crée l'unité au sein du corps de Christ. Ce n'est donc pas nous de la créer, mais nous devons simplement veiller à la conserver. Et comment ? En coopérant avec l'Esprit qui vit en nous, et en travaillant à ce que son fruit se développe en nous. Parce que les moyens nécessaires à la conservation de l'unité au sein de l'Église, c'est le fruit de l'Esprit qui est mentionné ici. Humilité, douceur, patience, amour, paix. C'est le Père également qui crée l'unité dans la diversité. Verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Il est au-dessus de tous, c'est-à-dire que tous les membres de l'Église lui sont soumis et cherchent à accomplir sa volonté. Il y a unicité des croyances et des pratiques, mais il agit également à travers tous. Ça veut dire que Dieu n'agit pas simplement à travers nous tout seuls de notre côté, mais que Dieu agit aussi à travers les autres. Et heureusement que nous ne faisons pas tous la même chose dans l'Église. Et heureusement qu'il y a également des personnes qui font peut-être les mêmes choses que nous, mais qui vont les faire d'une manière différente que nous. Il y a diversité des actions. Il habite en nous tous, en chacun, pas en quelques-uns. En chacun, Dieu est vivant et Dieu est présent. Ça veut dire qu'à chacun, Dieu parle, que chacun, Dieu transforme, corrige et fortifie. Et si jamais Dieu est au centre de chacun, et ça c'est quelque chose qui est vraiment réjouissant pour une église, si vraiment Dieu est au centre de la vie de chacun, eh bien plus nous serons chacun de notre côté proches de Dieu, plus mutuellement nous nous approcherons les uns des autres, parce que nous nous approcherons tous de plus en plus du centre de Dieu. C'est quoi une église ? Une église, c'est une communauté, c'est une réunion de disciples de Christ. Une église n'est pas une chose impersonnelle, mais c'est au contraire un rassemblement de personnes. Ça signifie que l'église, en tout cas sur le plan local, c'est qui ? L'église, c'est nous. Et notre vocation, notre appel, c'est de nous aider mutuellement à ressembler de plus en plus à Jésus. Et la Bible nous dit que pour nous montrer dignes de notre vocation, nous devons maintenir ensemble l'unicité qui fait de nous des chrétiens. Nous devons valoriser notre diversité et conserver notre unité. Alors j'ai essayé d'illustrer ça au travers des quatre types d'églises avec quatre dessins différents qui sont sur les petites feuilles. Vous voyez, c'est à la gauche. Il y a les églises en forme de passoire. Parce que, je veux dire, l'église, c'est nous. Notre église nous ressemble. À quel type d'église voulons-nous ressembler ? Il y a des églises en forme de passoire. Alors, dans ces églises-là, on considère que tous ceux qui viennent, tous ceux qui fréquentent l'église, et tous ceux qui sont de bonne volonté, eh bien, appartiennent à l'église et peuvent y faire... pour apporter leur touche personnelle à la vie de l'Église. Voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut, on ne repousse personne et on ne freine personne. Dans ces églises-là, il n'y a pas d'unicité, parce qu'il y a diverses croyances. Il y a une vraie diversité, c'est vrai, mais il n'y a pas d'unité non plus, parce que ça part dans tous les sens. Et de toute manière, ce type d'église ne survit jamais longtemps, parce qu'en fait, c'est une église inconsistante. Par contre, on rencontre plus régulièrement les trois autres types. Les églises en forme d'entonnoir. Dans ces églises-là, à partir du moment où une personne a un vague lien avec l'église, on considère qu'elle en fait partie. Voilà, on met tout dedans. Mais en même temps, les responsables de l'église ne veulent pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Parce qu'ils constatent que malgré tout, dans tous les gens qui sont là... Tout le monde n'est pas d'accord avec leurs idées. Ça veut dire qu'au bout du compte, seule une minorité de personnes qui a été habilitée par les responsables, peuvent agir dans l'église. C'est pour ça que c'est un entonnoir. Tout le monde rentre, mais il n'y a pas grand-chose qui en sort. Il n'y a pas d'unicité ici. Les convictions personnelles sont différentes. Il n'y a pas non plus une grande diversité, parce que seule une minorité agit. Il peut cependant y avoir une certaine unité dans la mesure où tout le monde est d'accord avec cette séparation très nette entre les membres et les responsables. Mais il y a quand même une vraie distinction entre les deux. Et puis il y a les églises en forme de tube. Alors là, c'est toute la vie de l'église qui est sous le contrôle des responsables, du ou des responsables de l'église. Voilà, ils s'assurent que l'église est composée de vrais croyants, mais ils veulent également contrôler tout ce qui se passe dans l'Église, tout ce qui se fait dans l'Église. Et les seuls dons et ministères qui peuvent s'exercer dans cette Église-là, ce sont ceux que les responsables eux-mêmes conçoivent ou acceptent. Il y a unité de la foi, ça c'est sûr. Il peut y avoir l'unité si tout le monde accepte cette domination des responsables, mais ce qu'on constate dans ces Églises, c'est qu'en fait, c'est rarement une vraie unité qui règne. C'est plutôt la peur qui règne et qui empêche les uns ou les autres d'exprimer réellement ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent. Et en tout cas, il n'y a pas de diversité car tous ne peuvent pas exercer librement les dons que le Seigneur a accordés à chacun. Et puis, il y a les églises en forme de porte-voix. Donc là, on veille à ne reconnaître comme membres de l'Église que les personnes qui appartiennent à Christ et qui se soumettent à sa volonté, on contrôle l'entrée. Mais à partir de là, chacun est encouragé à mettre au service de l'Église les dons que le Seigneur lui a accordés. Il y a unicité de la foi, mais il y a également la diversité créée et voulue par Dieu. Et là, les meilleures conditions sont réunies pour qu'il y ait l'unité, parce que chacun est sous la conduite du Saint-Esprit, aussi bien dans sa foi personnelle que dans la manière dont il va manifester sa vie au milieu des autres. Eh bien, si jamais nous voulons être dignes de notre vocation, c'est à ce type d'église-là que nous devons ressembler. Afin que l'Église grandisse, hein, nous pourrions être tentés d'assouplir la porte d'entrée, l'unicité. Mais ce serait une erreur. Nous devons au contraire maintenir l'unicité, déjà parce que de toute façon l'unicité, ce n'est pas nous qui la créons, hein, c'est simplement le travail de l'Esprit et la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et puis au fait, également, c'est l'unicité qui crée la confiance. Et c'est la confiance qui débouche sur la liberté dans l'Église. Plus nous avons confiance en quelqu'un, plus nous lui accordons de liberté. C'est ce qu'on s'enseigne à faire comprendre, on s'échigne à faire comprendre à nos enfants. Plus nous avons confiance en eux, plus nous leur laissons de liberté de faire ce que bon leur semble. Ce qui manque dans les églises de type entonnoir, c'est la confiance des responsables envers les autres membres. Et puis cela se comprend, parce que comme il n'y a quasiment pas de contrôle à l'entrée, bien, on se méfie de ceux qui sont là, et on se méfie en particulier que ceux qui sont là sont réellement conduits par Dieu. Et du coup, les responsables n'osent pas leur accorder de liberté, parce qu'ils ont peur qu'ils fassent un mauvais usage de cette liberté. Mais lorsque nous avons cette confiance que l'autre, que mon frère ou ma sœur, et bien au Seigneur, que nous avons confiance que son désir, c'est de se soumettre totalement à la volonté de Dieu, eh bien on a confiance que mon frère ou ma sœur fera un bon usage de sa liberté dans l'Église. Parce que nous avons confiance qu'il ou elle ne fera pas ce qu'il veut, mais qu'il cherchera à faire ce que Dieu veut. La confiance en l'autre entraîne la liberté. Et le bon usage de la liberté qui a été accordé, eh bien c'est quelque chose qui va encore renforcer de plus en plus la confiance qui est accordée au départ. Et ce qui est terrible dans les églises de type tube, c'est que la liberté d'être et d'entreprendre, eh bien, n'est pas accordée à ses membres du tout. Elle ne l'est pas au départ, et du coup, ça ne permet pas aux responsables de voir qu'ils avaient confiance en ces personnes. La liberté ni la confiance ne peuvent jamais se renforcer dans ces églises-là. Parce que le manque de confiance est aussi ce qui caractérise les églises de ce type. Manque de confiance en l'autre, mais aussi, faut quand même être conscient de ça, manque de confiance en Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu en valorisant les dons différents qu'il a accordés lui-même à chacun. C'est lui qui a voulu et accordé ses dons. C'est le Père qui nous a choisis afin de nous réunir en connaissant nos différences, afin que nous formions quoi ? Un seul corps. C'est Jésus qui veille et qui prend soin à son Église. En quoi ? En lui donnant tout ce dont elle a besoin pour grandir à sa ressemblance. Et ce n'est pas nous qui choisissons qui recevra ou qui ne recevra pas tel ou tel don, mais c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun divers dons, comme il le veut. Et pourquoi ça ? Afin que nous les mettions en pratique. Cela signifie que nous devons remercier Dieu pour la diversité que nous représentons, mais aussi que nous devons mutuellement nous encourager à développer et à exercer nos dons. Parce que c'est par ce moyen-là que le Seigneur a prévu de prendre soin de nous. La diversité ne signifie pas l'anarchie, ni que chacun fait ce qui lui plaît. La diversité dans l'Église consiste à exercer les dons que le Seigneur nous a accordés pour le bien de tous. Nous devons donc, selon le verset 3, nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et selon le verset 2, nous devons faire preuve d'humilité en soumettant nos dons, nos ministères et notre liberté à nos frères et sœurs. Parce que dans l'Église, il n'y a pas d'autoproclamation à exercer tel ou tel ministère, mais une liberté qui est accordée, déléguée par les autres à le faire. C'est par exemple ce qui va se passer cet après-midi avec mon ministère pastoral. Ce sont les membres de l'Église qui, conduits par le Saint-Esprit que tous ont reçu, qui vont reconduire ou non mon ministère. C'est comme ça qu'on discerne si c'est bien la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on discerne si c'est dans cette direction que l'Église doit aller ou non. Le verset 2 nous dit également que nous devons nous supporter les uns les autres dans l'amour et faire preuve de patience. Parce qu'il faut du temps pour que se développent les dons et les ministères dans l'Église. Ça signifie que nous devrons, toujours selon le verset 2, faire preuve de douceur. Des fois, les choses ne sont peut-être pas tout à fait comme nous l'aurions espéré. Nous devons faire preuve de douceur les uns envers les autres. C'est comme ça que nous pourrons accompagner et soutenir les autres dans leur ministère, dans leurs dons, afin qu'ils trouvent leur place dans l'Église et qu'ils exercent et développent leurs dons au service de tous. Le Seigneur a un merveilleux projet pour nous. C'est de nous faire grandir et ressembler de plus en plus à Jésus. Et c'est par le biais de l'Église, son propre corps, qu'il compte procéder. Montrons-nous dignes de notre appel. Veillons à maintenir l'unicité des croyances et des pratiques, mais aussi valorisons la diversité des dons et ministères que le Seigneur nous a accordés. Notre diversité, c'est notre richesse. Et faisons tout pour maintenir notre unité en nous soumettant à l'Esprit de Dieu. Amen.